et que Dieu nous accorde la grâce de faire ce qu'il nous demande. Dans le prophète Osée, je vous encourage à lire ce livre parce que les 13 premiers chapitres sont difficiles. Difficiles parce que le peuple de Dieu n'a pas obéi. Mais à la fin de ce chapitre, nous voyons que Dieu réitère ses promesses pour ceux qui désireront lui obéir. C'est un chapitre difficile parce qu'on voit la souffrance de Dieu à cause de la désobéissance du peuple. Mais en même temps, au chapitre 14, il y a un verset que j'aimerais utiliser avec vous ce matin pour introduire ce culte. Osée chapitre 14, verset 8, c'est la fin du verset. Je voudrais que vous reteniez bien ce texte. Hier matin, quand je me suis réveillé, ce verset s'est imposé à mon esprit. Et je savais qu'il fallait que je le partage avec vous. Je me suis réveillé et de suite, c'est de moi que tu recevras ton fruit. C'est ce qui est écrit dans la fin du verset 8. Donc, vous le lisez avec moi. Donc, c'est Dieu qui parle. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, il y a une question. Vous savez que la Bible regorge de questions. Il y a des centaines et des centaines de questions que Dieu pose à l'Église. Il nous les pose parce que on a besoin de les entendre, ces questions. Vous aimez qu'on vous pose des questions? Est-ce que vous aimez qu'on vous pose des questions? Oui. Mais que Dieu vous pose des questions. Si Dieu, nous, des fois, on peut poser des questions... Ça ne veut rien dire. On peut même dire à quelqu'un comment vas-tu, en vérité, peut-être qu'on le fait par principe. Mais quand Dieu pose une question, c'est une question sérieuse. Donc 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, il y a une question de Dieu. J'aimerais que nous y réfléchissions ce matin, car elle détermine véritablement le travail de Dieu dans l'Église. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, car... Qui est-ce qui te distingue? C'est la première question, mais la deuxième question est celle-ci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Voilà cette question qui va nous servir de base ce matin à cette exhortation. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vous connaissez tous ce verset. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous aimez donner? Est-ce que vous aimez vous donner? Est-ce que pour vous c'est important de donner? Mais voilà, même si ce verset peut nous réjouir, et même si ce verset peut être placardé sur le mur de la salle à manger, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, il n'empêche que pour pouvoir donner, il faut vraiment d'abord recevoir. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés. Beaucoup de chrétiens sont frustrés parce qu'en vérité, ils ne donnent pas. Ou alors, ils donnent comme on le faisait avant dans le monde, parce que même dans le monde, on peut donner des choses. Est-ce qu'il y a des gens dans le monde qui font plein de choses? Oui, ils le font d'une manière sociale, ils le font d'une manière intellectuelle, ils le font d'une manière humaine, sentimentale, etc. On peut faire des choses d'une manière humaine, mais ce n'est pas du tout ça que Dieu veut. Bien sûr que c'est bien de donner de l'affection fraternelle, pas fraternelle, de l'affection humaine. Est-ce qu'on peut donner de l'affection humaine? Oui, de la tendresse, oui, mais on peut donner de l'affection fraternelle qui vient vraiment de Dieu. Et beaucoup de chrétiens, ça peut se présenter, ne peuvent pas donner. Ils voudraient donner certaines choses, alors ils donnent des miettes, mais ils ne peuvent pas donner parce qu'ils ne reçoivent pas. Et c'est quelque chose de terrible. Par exemple, de vouloir donner la paix. C'est écrit « Heureux ceux qui procurent la paix ». Mais si vous l'avez perdu la paix, comment je vais pouvoir procurer la paix à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a-t-il déjà donné la paix? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de procurer la paix à quelqu'un? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous comprenez ma question? Est-ce que vous pensez que dans le monde dans lequel les gens vivent, ils ont besoin que les chrétiens leur procurent la paix? Oui, il y a des chrétiens qui sont incapables de procurer la paix parce qu'ils l'ont plus. Ils l'avaient, ils l'ont perdu. Est-ce qu'on peut perdre la paix? Bien sûr, on peut tout perdre. On peut tout perdre. Il y a des chrétiens qui sont tristes et perdus et malheureux et frustrés parce qu'ils ne peuvent plus faire ce que Dieu leur avait demandé de faire et ce qu'ils faisaient peut-être même au début. Il y a des chrétiens, vous parlez avec eux, laissez-moi vous dire que ce n'est pas la paix qui vous procure. Il y a des chrétiens qui vous procurent quoi? Allez, il faut m'aider un peu. Qu'est-ce qu'on peut procurer aux autres? Mais le stress. Est-ce que c'est possible qu'un chrétien procure le stress à quelqu'un d'autre? Mais est-ce que vous vous rendez compte la gravité de la situation? C'est-à-dire qu'à la place de procurer la paix à quelqu'un, Je le stresse. Pourquoi? Eh bien, parce que je suis stressé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et Dieu veut que nous puissions donner. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'avez-vous reçu dernièrement? Qu'avez-vous reçu de la part du Seigneur? C'est une question qu'on peut poser très sérieusement. Qu'avez-vous dernièrement reçu? En lisant la parole, en vous tenant devant sa face, en partageant un moment de prière avec d'autres frères et sœurs. Qu'avez-vous reçu? Paul dit souvent, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Il l'a vraiment reçu. Et toutes ces épîtres formidables de l'apôtre Paul sont des choses qu'il a reçues. Et parce qu'il a reçu, il a pu bien sûr, à son tour, les donner. Nous devons recevoir. C'est quelque chose d'important. Regardez par exemple, on va lire un ou deux versets qui nous permettent de comprendre cette affaire. Parce que beaucoup de chrétiens sont en stand-by, si vous voulez, ils sont là, ils attendent, ils regardent, ils observent, mais ils ne reçoivent rien. Et je vous répète, qu'avez-vous reçu? Qu'êtes-vous en train de recevoir? Dans Éphésiens, au chapitre 4, les trois derniers chapitres sont très 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 pratiques, et par exemple, on voit bien qu'il faut donner. Par exemple, Éphésiens 4, verset 28. Est-ce que c'est important de travailler? Est-ce que pour vous le travail c'est important? Il y a des gens qui vous disent « Oh non, moi si je peux buller, si je peux rester au chômage, si je peux profiter de la société, moi j'ai des droits. » Oui, mais en fin de compte, ce n'est pas tellement la volonté de Dieu ça. Éphésiens chapitre 4, verset 28, « Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Pourquoi ?» Regardez bien. « Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. » Il n'est même pas dit que celui qui ne travaillait pas travaille que pour lui, mais qu'il travaille pour pouvoir donner. Si vous lisez le verset qui suit, c'est le même principe, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Pourquoi? Qui servent à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, si on prenait que ces deux versets, on voit bien que le désir de Dieu, c'est que, par exemple, nous travaillons. Je me souviens d'un monsieur qui était venu ici, et je me rappelle, il venait des Antilles, et j'avais annoncé dans les annonces, bien sûr, que je partais faire une mission à Avignon. À la fin, il me dit, « Ah, justement, je m'en vais à Avignon, est-ce que vous pouvez me prendre ?» Ben, je dis, « Bien sûr !» Puis après, on part, on discute dans la voiture. C'était vraiment pas ça. Puis je dis, mais vous allez chez qui à Avignon? Ah ben, je sais pas. Ah bon? J'ai dit, et vous avez de l'argent pour. Si vous avez personne? Non. Il a fallu bon, que j'y paye l'hôtel. Et puis maintenant, j'ai dit, mais vous travaillez pas? Ah non, moi je travaille pas. Moi je veux vivre dans la paix. J'ai dit, mais vous savez, on peut être dans la paix tout en travaillant. Un chrétien, hein? Mais non, si on travaille, on n'a pas la paix. Je dis, mais vous savez, alors je vous assure que je l'ai vraiment grondé. Il s'est mis à pleurer. Je dis, oui, vous pouvez pleurer, c'est pas grave. Mais voyez un petit peu cette mentalité des gens qui ne veulent pas travailler. Quand vous lisez les textes de Paul aux Thessaloniciens sur les gens qui ne veulent pas travailler, laissez-moi vous dire que ça fait réfléchir. Et que ce n'est pas comme ça qu'on obtient la bénédiction. Et quand un chrétien devient vraiment égoïste et qu'il ne pense qu'à lui, moi je crois que l'on doit travailler pour avoir de quoi donner. Parce que c'est bien joli de se gargariser de la promesse, il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, mais il y a quand même des choses que l'on doit communiquer. Vous avez vu qu'il communique une grâce à ceux qui l'entendent. C'est bien entre nous de nous communiquer la grâce, de nous communiquer la paix, de nous communiquer les besoins. C'est bien quand M. Bordeneuve s'en va évangéliser un village en Afrique, qu'il parte avec, je sais pas moi, une tonne de mille pour donner à ces gens qui n'ont rien mangé. Est-ce que vous trouvez que c'est bien? Bien sûr, ici, on n'a pas besoin de distribuer la nourriture, quoique on le fait, mais à petite échelle, à des personnes qui en ont besoin. Mais quand M. Bordeneuve s'en va dans un village où tout le monde est en train de mourir de faim, est-ce que c'est bien, en même temps qu'on prêche l'évangile, qu'on puisse donner une tonne de mille? Est-ce que c'est bien? Mais on ne peut pas ne pas donner. Et laissez-moi vous dire que c'est un problème grave parce que nous ne nous rendons pas compte à quel point nous pouvons nous faire du mal en ne donnant pas. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas donner. Cette prédication, il faut la concevoir d'une manière spirituelle. Car la question, elle est de Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui pose la question pour poser des questions et embarrasser les chrétiens de Corinthe. C'est une question qui doit nous faire réfléchir. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? On ne doit pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Là, on est sous le regard du Seigneur, vous en êtes conscient, on a pris la Sainte Cène. Est-ce que c'est important pour vous la Sainte Cène? C'est important la Sainte Cène. C'est quelque chose de sérieux, où on se rappelle tout ce que Jésus a accompli. Là, on est sous le regard de Dieu, et on se tait, comme on l'a chanté, pour réapprendre, ou pour apprendre certaines choses. On ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. J'ai pris deux ou trois textes, où justement, vous connaissez ce verset que j'ai souvent cité dans l'Ecclésiaste au chapitre 4, verset 17, « Quand tu entres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. » Il y a des gens qui s'approchent de Dieu. Quand on va dans un temple, on s'approche de Dieu, mais on s'approche comme des insensés. Pourquoi? Parce qu'on peut apporter justement quelque chose, un service, une prédication, entre autres, etc. Mais on n'entend pas ce que Dieu a à nous dire, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. J'aimerais qu'on lise deux versets avec vous. Un dans Ésaïe, les deux d'ailleurs. Ésaïe. Dans Ésaïe 29, c'est très important la manière dont on vient à l'église. Pourquoi je suis là ce matin? Pourquoi je suis là? Vous allez me dire, ah mais vous, monsieur Gau, c'est normal, il faut que vous soyez là. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut que je sois là? Ben oui. Et oui, je suis rémunéré par l'église, est-ce qu'il faut que je sois là? Oui. Mais pourquoi je suis là? Est-ce que je suis là parce que je dois obtenir un salaire ou est-ce que je suis là parce que vraiment j'aime le Seigneur? Il n'y a que Dieu qui le sait. Mais c'est pareil pour vous en vérité. Pourquoi je suis dans la maison du Seigneur? Regardez le reproche que le Seigneur est obligé de faire aux Hébreux. Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Voyez, son cœur est éloigné de moi. Ils étaient dans le temple. Les gens qui nous voient rentrer à l'église peuvent dire, ah, ces chrétiens, ils sont proches de Dieu, ils vont à l'église tous les dimanches. Mais Dieu, lui, voit exactement l'état de cœur dans lequel nous venons. On peut s'approcher de Dieu et avoir le cœur éloigné de lui. Et que la religiosité, la spiritualité, comme vous voudrez, en fin de compte, n'est qu'une tradition. Voilà, je viens parce que je pense que Dieu est avec moi. Donc, il faut faire très attention à la façon dont on s'approche de Dieu. Vous connaissez tous très bien, un peu plus loin, dans Ésaïe 58, ce fameux chapitre sur le jeûne. Alors, quand vous lisez ce chapitre, ça commence très, 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 très bien. Ils veulent, verset 2... Regardez bien, c'est magnifique. Quand vous lisez ce chapitre, moi, quand j'ai étudié ce chapitre, j'ai compris vraiment qu'on peut se tromper. Ésaïe 58, verset 2. « Tous les jours, ils me cherchent. » Ça part vraiment bien. « Ils veulent connaître mes voies. » C'est très bien. « Comme une nation... » Là, on commence à comprendre. « Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. » C'est bien ça, non? Est-ce que c'est bien de désirer l'approche de Dieu? Mais regardez l'état de cœur. Regardez bien au verset 3, parce que nos questions sont très révélatrices de l'état d'esprit dans lequel on se trouve. À quoi ça sert de jeûner? Vous avez vu un peu? Il s'approche de Dieu, et maintenant c'est pour lui faire des raisonnements. À quoi ça sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Vous vous rendez compte quand on commence à parler à Dieu comme ça? Et pourquoi si? Et pourquoi là? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Il vous faut lire tout le texte, lisez-le, on n'a pas le temps de le faire, mais vous verrez comment Dieu dénonce cette mentalité de rebelle, en fin de compte, parce que c'est la rébellion. Quand on s'approche de Dieu, il faut le faire d'une manière sérieuse, d'une manière honnête. On ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche d'un homme. Si demain vous devriez, et encore, je ne sais pas, comment vous vous approcheriez-vous demain si vous vous approchiez d'un ministre que vous appréciez, ou d'un chef d'État que vous appréciez? Comment vous feriez? Vous avez rendez-vous demain avec le président de la République. Voilà, peut-être que certains d'entre vous, vous iriez comment? Vous iriez comment? Si vous aviez rendez-vous? Comment? Un peu d'émotion, vous iriez quand même, bon, quand même. On se soumet aux autorités, même si on n'est pas d'accord avec les programmes, etc. Mes frères et sœurs, quand même. Il y a, bon, c'est vrai que, imaginons un roi de la terre que vous apprécieriez. Quand même, on s'approcherait d'une manière respectueuse. Et comment on s'approche de Dieu? Parce que c'est ça qui est important. Beaucoup de gens ne reçoivent pas ou ne reçoivent plus parce qu'ils ne savent pas s'approcher de Dieu. Et quand on prend ces textes, j'en ai pris juste deux ou trois, mais ça nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. On s'approche de Dieu avec respect, avec une véritable crainte, c'est-à-dire une crainte respectueuse. Et c'est triste de voir que beaucoup de chrétiens ne savent pas donner. Imaginez si matériellement nous ne donnions pas. Imaginez-vous l'embarras dans lequel se trouverait l'association de Madame Bordeneuve. Imaginez cet hôpital. Imaginez-vous. Rien que le peu, ce qu'on a donné pour le Niger, imaginez-vous si on ne donnait pas. Ça a des répercussions terribles. Mais il n'y a pas que l'argent. Il y a d'abord de recevoir spirituellement. Parce que quand on reçoit d'ailleurs spirituellement, je peux vous dire que quelqu'un qui reçoit spirituellement, il aime donner. Et souvent, on met la charrue avant les bœufs, on dit aux gens, mais il vous faut donner votre dîme, tout ça. Moi, je ne suis pas tout à fait sûr que ça soit, que c'est comme ça que ça doit marcher. Je pense que quand un cœur se donne à Dieu, quand un cœur reçoit de Dieu, il sait ce qu'il doit faire. Et je vous pose la question, est-ce que vous savez ce que vous avez à faire? Est-ce que vous pouvez tous dire, oui, moi je sais quelle est ma place dans l'Église, je sais ce à quoi Dieu m'a appelé. Vous devez pouvoir le dire. Et si vous ne recevez pas, vous ne pourrez pas donner. Ou alors vous donnerez et vous vous épuiserez. Le pasteur responsable des changements nous disait qu'en 5 ans ou 4 ans, il y a eu 65 pasteurs qui ont démissionné. Moi ça ne me fait pas rire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans le mouvement des assemblées de Dieu en France, 65 pasteurs qui ont démissionné. Il y a des explications, on n'a surtout pas à juger, c'est très 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 compliqué. Mais une chose est sûre, je pense qu'on a négligé cette affaire de donner, de recevoir. Vous vous rappelez quand les Juifs se sont approchés de Jésus et qui ont dit « mais que devons-nous faire ?» Parce que l'homme, lui, croit qu'il est capable de faire. « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus a répondu « l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » Le Seigneur, lui, ne ramène pas à faire quelque chose, il l'amène à croire, parce que croire, c'est vraiment recevoir. Et si nous ne recevons pas, nous ne pourrons pas donner. Il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé, on le chantera tout à l'heure, c'est la strophe d'un vieux cantique, mais c'est tiré, bien sûr, d'un texte biblique. Il parle de ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. C'est dans Romains au chapitre 5. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur ce verset. Aux Romains, au chapitre 5, il y a une grande bénédiction pour ceux qui reçoivent. Est-ce que vous recevez des choses de la part du Seigneur? C'est-à-dire quand vous lisez la parole de Dieu, est-ce que la parole de Dieu vous interpelle, vous en fortifie, vous encourage? Regardez ce que Paul dit aux Romains. Romains, chapitre 5, verset 17. « Moi, c'est en chantant la dernière strophe de ce cantique qu'on va chanter tout à l'heure, que j'ai... » Et parce que le pasteur avait rappelé que c'était un verset de la Bible. Moi, je vous assure, j'ai cherché ce verset, je l'ai trouvé. J'étais même pas dans le ministère encore. Je crois que je rentrais juste dans le ministère, donc il y a 30 ans. Romains chapitre 5, verset 17. Car ce texte... Vous pouvez le mettre, monsieur Puet, la quatrième strophe du 55, là, s'il vous plaît. Voilà. On va lire d'abord le verset. « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul... » Alors, regardez bien. « À plus forte raison... ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ?» Et on avait chanté ce cantique. Voyez, montez s'il vous plaît, les quatre. Non, remontez la dernière, la fin, tout à fait la fin. Encore ? Voilà, stop. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. On chantait ce cantique, et je vous assure, il y a 30 ans, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu chantes? Vous vous rendez compte, c'est des paroles très fortes, je ne sais pas si vous réalisez, ce qu'on peut chanter, je vis et je règne avec lui, parce que pour moi, le règne, ça serait dans l'éternité, on règnera avec lui. Oui ou non, est-ce que vous pensez qu'on règnera avec lui? Mais ça c'est évident, ça c'est classé. Nous régnerons avec lui, si nous marchons avec lui, nous régnerons avec lui. Mais ce texte nous parle de régner avec lui sur la terre. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Et j'ai compris que beaucoup de chrétiens, moi le premier, je chantais des choses que je ne vivais pas parce que je ne recevais pas. Il est dit « ceux qui reçoivent ». Et je vous pose vraiment la question. Je vous le pose devant Dieu. Que recevez-vous de la part du Seigneur? Que recevez-vous dans vos cultes personnels? Que recevez-vous? Combien de gens se laissent dominer par les circonstances? Combien sont là? On a entendu ce matin une prophétie de quelqu'un qui est là, ballotté, qui regarde les uns, qui regarde les autres, qui ne peut faire aucun progrès parce qu'il voit que l'imperfection dans la vie des gens. C'est pas comme ça que ça marche. Combien de gens sont dominés par le mal? C'est pas écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le bien, le mal par le bien. C'est une instruction du Seigneur. C'est comme ça que l'on commence à recevoir. Là, vous voyez, quand on a lu tout à l'heure la Sainte-Cène, prenez et mangez. Prenez et buvez. Qu'est-ce que vous pensez lorsque vous entendez, ou régulièrement, cette parole de Jésus, prenez, mangez, prenez et buvez. Est-ce que ça veut dire qu'il faut prendre un petit peu de pain et le manger? Est-ce que ça veut dire qu'il faut boire un petit peu de vin et puis le réaliser? Ou est-ce que ça représente quelque chose de beaucoup plus profond, de prendre la victoire, de réaliser ce que Jésus a fait sur le bois de la croix et de prendre vraiment cette vie de l'esprit? Qu'est-ce que c'est pour vous prendre le pain et le vin? Qu'est-ce que c'est? Prenez et mangez. Quand il est dit aspirez, quand il est dit mais cherchez et vous trouverez, demandez et vous recevrez. On voit tous ces verbes actifs qui nous montrent qu'un chrétien, il doit recevoir. Et je vous assure, quand je me suis réveillé hier matin et que ce verset s'est imposé à mon cœur, c'est de moi que tu recevras ton fruit, j'ai compris que nous devions vraiment rester suffisamment de temps dans la présence de Dieu pour recevoir. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Un fruit. Prenons un exemple, n'importe lequel, un pommier, un arbre. Bon. Vous le voyez, un pommier plein de pommes. La pomme, elle est tenue par une branche. Oui? Alors, est-ce que la vie vient de la branche? La branche est tenue par une branche plus grosse. La branche plus grosse est tenue par le tronc. Mais la vie, elle vient d'où en vérité? Elle vient de la branche, du tronc? Elle vient des racines. Elle vient de quelque chose qui ne se voit pas. Et le fruit, est-ce que la pomme, est-ce que le pommier doit se dire, bon, j'ai porté des pommes, imaginez un pommier qui se met à parler, voilà, j'ai porté plein de pommes, je vais me nourrir, moi, de ces pommes. Est-ce qu'un pommier produit des pommes pour lui? Non, un pommier produit des pommes pour rafraîchir les autres. Vous êtes d'accord? Et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Dieu nous compare à des sarments, à des grappes de raisin, etc., qui doivent être le résultat de cette communion avec Dieu pour pouvoir rafraîchir les autres. Et c'est quand même une question que je dois nous poser. Est-ce que je rafraîchis les autres quand je parle avec mon épouse, quand je parle avec mes enfants, quand je parle avec des frères et des sœurs, quand je parle avec des inconvertis? Est-ce que je rafraîchis les autres ou est-ce que je les stresse, comme disait notre sœur tout à l'heure? Car quand même, je vous l'avais dit quand j'avais repris là il y a un an, cette chrétienne de Narbonne qui m'avait téléphoné et qui me disait « Je fuis, mot pour mot, je fuis les chrétiens parce qu'ils me communiquent des angoisses ». C'est une parole qui est vraie, c'est mot pour mot. Et je vous assure, quand cette sœur m'a dit cela, parce qu'elle venait de traverser des moments difficiles, très difficiles, son mari l'avait abandonnée, ses enfants étaient partis, elle avait perdu son boulot, c'est clair qu'en quelques jours, ça faisait beaucoup. Mais quand même, est-ce que l'on peut communiquer une grâce à ceux qui nous entourent? Pourquoi je ne communique pas la grâce? Et c'est vrai que c'est peut-être honnête, je l'ai dit plusieurs fois, d'en parler avec les gens qui nous font confiance. Peut-être c'est votre femme. Est-ce que vous communiquez la paix à votre femme? Est-ce que vous communiquez la paix à votre mari? Moi, je me souviens de cette époque où je me rappelle ma fille, elle m'avait dit, mais papa, tu nous irrites. Je regardais mes gestes, je dis, mais tu plaisantes? Non, il faut que tu l'entendes. Tu nous irrites. Je ne me rendais pas compte que si j'irritais ma femme et mes enfants, qui n'osaient pas me le dire, quoique je l'ai quand même entendu, mais je ne voulais peut-être pas l'entendre, parce qu'il y a aussi ce qu'on ne veut pas entendre. Et je vous assure que sur le coup, merci de me le dire, j'apprécie, et c'est vrai que sur le bon, mais il faut quand même le digérer. Je me suis dit, mais c'est grave, si tu irrites ta femme et tes enfants, s'il y a quelque chose qui ne va pas, si j'irrite quelqu'un, c'est que je suis irrité. Et quand Paul pose la question aux Romains, laissez-moi vous dire, aux Corinthiens, ce n'est pas pour les fatiguer, mais c'est pour que nous réalisions tous que nous avons quelque chose à communiquer. Qu'as-tu que tu n'aies reçu, donc il faut que je reçoive. Jésus a dit, mais venez à moi et vous recevrez, venez à moi et je vous donnerai le repos. Vous connaissez tous ces textes, on pourrait prendre des milliers de textes. Prenez une référence, une concordance et regardez tous les. Prenez le verbe donner, recevoir et vous allez voir la quantité de textes où on voit que Dieu ne cesse de nous rappeler que ça viendra de lui et de lui seul. Ce verset-là, vous pouvez l'éteindre si vous voulez, monsieur Puyette. Ce verset, quand il est dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. C'est pas avec la religion, c'est pas avec les. C'est pas avec le service, ça se passe avec lui. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que les choses de Dieu, ça se passe seul avec Dieu? Quand Jésus dit à Pierre, qui était bien à un moment donné, Pierre, mais Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, ça sous-entend que Pierre avait dû passer du temps seul dans la présence de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est obligé. Et que là, dans un moment de communion, de prière, de méditation, il avait reçu cette pensée de Dieu que le Seigneur, que Jésus n'était pas un prophète, Jésus n'était pas un enseignant, Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que vous voulez que Dieu vous révèle certaines choses? Ou est-ce que vous attendez tout du pasteur? Est-ce que c'est le pasteur qui doit tout vous révéler? Est-ce que ce sont les bouquins qui doivent tout vous révéler? La Bible, les bouquins, faites attention, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout spirituels. Mais imaginons, il y a des très bons livres. Est-ce que c'est par les livres ou est-ce que Dieu peut vous révéler certaines choses parce que vous vous trouverez devant lui? Le bien, il faut le recevoir, il faut le prendre, il faut le saisir, il faut le rechercher, il faut le demander. Demandez et vous recevrez. Il y a des gens qui disent « Ouais, j'en ai marre, je peux plus, j'ai rien. » Mais mes frères et sœurs, je trouve que c'est dommage de parler comme ça. Quel témoignage! Vous vous rendez compte, si je venais, moi, et que je vous dis, ouais, je n'ai plus de prédication à vous donner, je suis fatigué, voilà, j'ai traversé ça, j'ai rien à vous donner, j'ai pas ouvert ma Bible depuis 8 jours. Mais vous diriez, mais monsieur Go, vous n'avez plus rien à faire sur une estrade. J'espère que vous le diriez, que vous ne feriez pas du sentiment, oui, monsieur Go, vous avez vécu ceci. Non, je pense qu'un homme de Dieu doit faire ce que Dieu lui demande, et un chrétien doit recevoir. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Que recevez-vous? Qu'avez-vous reçu? Est-ce que vous savez que Dieu veut que vous receviez? Oui, le diable est un voleur. Le diable, il fera tout pour vous dérober, pour vous voler, tout ce que Dieu vous donnera. Est-ce qu'on peut perdre quelque chose de suite? Est-ce qu'on peut vous donner quelque chose et de suite, on peut vous le voler? Bien sûr. Et c'est ce qui arrive. Il y a des gens, ils ont reçu la paix, ils ont eu la paix quelques jours. Et ils l'ont perdu. À tel point qu'ils ne savent même plus s'ils l'ont eu. Parce que quand on a perdu certaines choses, laissez-moi vous dire que le temps peut passer et on peut en arriver à ne plus savoir si on l'a vraiment reçu. Moi, je sais de quoi je parle par rapport au salut. La joie du salut, est-ce que c'est une réalité, la joie du salut? La joie du salut, c'est une immense bénédiction d'avoir la joie du salut. Vous l'avez, la joie du salut? Peut-être que vous l'avez perdue. Et je sais ce que c'est. J'ai perdu la joie du salut. Et je peux vous dire, quand je lisais « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont décrits dans le livre de vie », je me disais, mais vous vous rendez compte? J'en étais arrivé à me poser la question si j'avais vraiment reçu un jour la joie du salut. C'est grave d'en arriver là. Et c'est ce que j'ai vécu. Il n'y a pas que moi qui l'ai vécu. David, il s'est loupé, il s'est bien loupé. Et à un moment donné, il va faire des prières profondes. Vous connaissez le psaume 51. Est-ce qu'il ne va pas dire, rends-moi la joie de ton salut? Est-ce qu'il va le dire? Oui, il l'avait perdu. Il l'avait perdu peut-être que lorsqu'il traversait sa cour et son palais, et lorsqu'il avait tout son staff, il se promenait dans Jérusalem, on devait lui dire, roi, que tu es bien. Tu as pris Bathsheba, ce pauvre mari qui est mort au combat. Qu'est-ce que tu as été un petit peu bien. Je suis sûr que ça a dû se passer comme ça. Tu as fait quelque chose de merveilleux, vraiment. Vraiment, tu es un roi formidable. Mais lui, en vérité, il avait perdu la joie du salut. Et il va être confronté à son péché par le prophète Nathan, et vous connaissez le psaume 51, et il va dire, mais donne-moi la joie du tout seul, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Mais moi je crois que c'est peut-être la prière que plusieurs d'entre nous devrions faire, donne-moi un cœur pur, un esprit bien disposé. Parce que les gens souvent ils sont là, vous connaissez le proverbe, la sangsue a 2 filles, la première elle s'appelle... Donne, et la deuxième s'appelle donne. Mais c'est un proverbe biblique, et il y a des chrétiens qui sont dans le fait d'obtenir, mais pour eux. pour eux, à la place peut-être, et je suis très sérieux parce que ce sont des choses pour lesquelles les gens en souffrent. Imaginons un jeune homme ou une jeune fille, « Seigneur, donne-moi un mari. » Moi, je crois qu'il y a des choses que Dieu nous donne. Mais peut-être qu'avant d'avoir un mari, peut-être qu'avant d'avoir une épouse, peut-être il faudrait que je dise, « Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un esprit bien disposé. Donne-moi ce que tu veux me donner. » Parce qu'il y a des choses, Dieu vous les donnera par-dessus tout. C'est écrit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Est-ce qu'il y a plusieurs chrétiens parmi vous, parmi nous, qui ont vérifié cette vérité? Vous avez cherché Dieu pour chercher Dieu, et tout le reste vous a été donné. À tel point que vous n'avez pas eu besoin de le demander. Mais il y a des chrétiens qui sont stressés, qui sont stressants, qui sont fatigants, et le diable, lui, se gargarise de ces choses, et cela donne un mauvais témoignage, parce que quand même un chrétien, c'est un témoin. Si on ne peut pas convertir les gens, on peut quand même donner un bon témoignage. Vous serez mes témoins. Et on peut témoigner de quoi? C'est quoi un témoin? Quand des fois on dit on cherche un témoin, il y a eu un accident sur la rocade, à tel endroit, tel jour, à telle heure, on cherche un témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu. Et qui peut dire, voilà, il s'est passé ça, ça, ça et ça, ça s'est passé de cette façon. Quand Jésus dit, vous serez mes témoins, on pourrait dire à plusieurs chrétiens, mais tu peux témoigner de quoi? Ben oui, j'ai pris le baptême parce que les copains ils prenaient le baptême ce jour-là, alors on m'a dit, tu ne veux pas prendre le baptême? Si, ben, tu vas témoigner que tu as suivi. Et la vie spirituelle, c'est quelque chose de sérieux. Quand Jésus dit qu'il va vous donner quelque chose, il va vous le donner. Nous, des fois, on fait des promesses, on ne peut pas les tenir. On a honte, d'ailleurs. C'est pas vrai que des fois, on a oublié. Ça vous est jamais arrivé de dire, bon, je t'inquiète pas, je t'oublie pas. Et on a complètement oublié. Je t'ai oublié. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, en tous les cas, moi, ça m'est arrivé. Mais quand Dieu dit qu'il va vous donner quelque chose, il va vous le donner. Quand vous lisez Ésaïe 61, et que vous lisez, voilà, je changerai le deuil en allégresse. Est-ce que c'est vrai? Je vous donnerai une huile de joie au lieu du chagrin. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous donner de la joie à la place d'avoir du chagrin? Est-ce que c'est normal d'avoir du chagrin? Bien sûr que c'est normal. Est-ce que Dieu peut changer le chagrin en allégresse? Moi, je le crois. Je le crois parce que c'est écrit. Et Dieu est un Dieu qui donne. Regardez avec moi un peu plus loin dans les Corinthiens, dans 2 Corinthiens au chapitre 1er. Il y a des chrétiens qui sont dans l'affliction depuis des années. Moi, j'ai connu une dame qui était dans le deuil depuis 3 ou 4 ans. Elle était dans le deuil, le même deuil que le jour du décès de son mari. Ça faisait 3 ans que son mari était décédé. 3 ans. Et elle avait été interpellée par une prophétie, parce qu'il y avait une prophétie qui disait « Bannis le chagrin de ton cœur ». C'est un verset biblique, bien sûr. Et regardez dans 1 Corinthiens, au chapitre 1er, 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens, chapitre 1er. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 1er, vous avez une explication pratique par rapport à la consolation de ce que je suis en train de vous enseigner. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 3. Dieu est présenté dans ce texte comme le Dieu de toute consolation. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Vous le croyez ça? Le Dieu du ciel et de la terre, l'Éternel, le Créateur, s'appelle le Dieu de toute consolation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Et si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi aux consolations. Donc ce texte nous explique bien que dans la vie, nous pouvons être affligés. Nous pouvons tous traverser des épreuves, tous traverser de profondes, profondes douleurs. Mais que Dieu, le Dieu de toute consolation, va nous consoler. Je me souviens de cette sœur qui était ici, quand je suis arrivé, elle avait traversé une épreuve difficile. Elle me dit, oh, mais moi je comprends, hein. Moi j'ai traversé le deuil et je peux vous dire que je comprends les autres. Je dis, mais est-ce que vous avez été consolé? Elle me dit, non. Et je dis, vous pouvez les comprendre, mais vous ne pouvez pas les aider. Et c'est ce qui arrive dans bien des cas, on peut comprendre. Mais Dieu nous montre dans ce texte que ce n'est pas une question de comprendre, c'est une question de recevoir quelque chose qui va nous permettre d'aider les autres. Est-ce que vous voulez aider les autres? eh bien, vous devez recevoir. La consolation, c'est extraordinaire d'avoir été consolé. Est-ce que vous avez déjà été consolé, même par quelqu'un? Est-ce que quelqu'un vous a déjà pris dans les bras et vous dit « je t'aime » Est-ce que quelqu'un vous l'avait fait? Est-ce qu'on vous l'a déjà fait? Allez, dites-moi-le, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'apporter de la fille? Ben oui, mais c'est important. Moi, je l'ai vécu. Ça m'est arrivé que des gens me disent « voilà, monsieur, on ne comprend pas ce que vous traversez. » Que Dieu vous bénisse. Mais ça fait du bien. On a besoin. Mais quand c'est Dieu qui vous console, quand c'est Dieu, mais il faut demander. Il y a des gens qui n'ont jamais reçu, mais parce qu'ils n'ont jamais demandé. Judas, il aurait pu recevoir la délivrance de l'amour de l'argent. Est-ce qu'il aurait pu être délivré de l'amour de l'argent? Mais c'est clair. Un soir, il aurait dit à Jésus, écoute, est-ce qu'on peut se voir 10 minutes? J'ai besoin de te parler. J'ai vraiment un problème, mais j'ai vraiment un grave problème avec l'argent. Est-ce que Jésus lui aurait dit, ah, tu te débrouilles? Ou est-ce que Jésus l'aurait délivré de l'amour de l'argent? Est-ce qu'il l'aurait délivré? Si, et s'il ne l'avait pas délivré avant la crucifixion, est-ce qu'à la crucifixion, après qu'une fois qu'il a vu le bazar dans lequel il s'était plongé en vendant Jésus, parce qu'il pensait que Jésus allait s'en sortir, je me doute que ça faisait plein de fois qu'ils avaient essayé de l'arrêter, ça n'avait pas marché, alors il a dû se dire, moi je vais gagner du dessous, et de toute façon Jésus va s'en sortir. Je suis sûr qu'il a dû le penser, bon ça c'est une parenthèse, c'est moi qui le pense, ce n'est pas écrit. Mais, est-ce que quand il a vu comment ça a tourné, s'il était parti en courant à Golgotha, au calvaire, et s'il s'était mis à genoux, écoute Seigneur Jésus, je te demande pardon, est-ce qu'il aurait été pardonné? Et il s'est suicidé. Le pasteur qui avait pour pasteur le plus grand des pasteurs, il n'a pas su recevoir. Alors que David, regardez David, lorsqu'il est confronté à son péché, il dit voilà, mais donne-moi la joie du Seigneur, redonne-moi-la. Crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Regardez tout ce qu'il le montre. Il dit, mais selon ta grande miséricorde, il croit à la miséricorde de Dieu. Là, il n'est plus dans le psaume 23, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il l'a perdu. Il l'a perdu parce qu'il a péché. Mais il dit, on peut y aller, dans le psaume 51. Regardez cette... Parce qu'on se demande pourquoi David a été un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a fait que des exploits, mais non, il n'a pas fait que des exploits. Il a beaucoup péché aussi, David. Mais chaque fois qu'il péchait, il croyait dans la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous croyez dans la grande miséricorde du Seigneur? Répondez, s'il vous plaît. Répondez au Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'il est grand et miséricordieux? Eh bien, David le croyait. David, ça allait mal. Ça allait très mal ce jour-là. Mais à la place de râler, à la place de bisquer, de se plaindre, il s'approche de Dieu. D'ailleurs, il a composé ce fameux psaume 51, et on voit bien, verset 2, « Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Donc c'est clair, ça a été composé à un moment où ça allait très très mal. Mais quand Dieu nous parle, ça va quand même très bien. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Cet homme, il connaît Dieu. Il sait que Dieu est grand et miséricordieux. Vous croyez que Dieu va nous traiter selon nos péchés? Oui, si on ne s'humilie pas, oui. Mais vous croyez que la miséricorde de Dieu, la grande miséricorde de Dieu, peut faire que Dieu ne nous traitera pas selon nos péchés? Mais mes frères et sœurs, si vous êtes empêtrés dans l'angoisse, empêtrés dans l'échec, mais approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir la grâce et la miséricorde. Oh, quelqu'un me dira, parce que c'est déjà arrivé, oh, mais moi, je ne peux pas m'approcher avec assurance. Vous n'avez pas vu le pétrin dans lequel je suis. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir d'assurance parce que vous allez bien. Vous avez de l'assurance parce que lui va bien. Parce que s'il fallait s'approcher de Dieu, que chaque fois, si on pouvait s'approcher de Dieu, que chaque fois qu'on a de l'assurance, il y a plein de fois où on ne s'approcherait pas. Quand il est dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce, vous pouvez vous approcher avec assurance parce que Dieu va bien. Est-ce que vous croyez que Dieu va bien? Et qu'il peut vous donner sa grâce et sa miséricorde. C'est pour ça qu'il faut que certains d'entre vous vous arrêtiez avec Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Peut-être Seigneur, mais crée en moi un cœur pur. Mais crée en moi un cœur pur. Que j'ai un cœur bien disposé. Parce que s'il y a un cœur qui n'est pas bien disposé, eh bien ça va, la graine va tomber sur le dur. Et comme dit Paul aux Corinthiens, mais je vous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Parce que ça ne dépend pas d'une prédication, dire « Oh, c'était bien, c'est ce que j'avais besoin d'entendre. » Mais c'est pas parce que la prédication correspondrait que ça va vous bénir. La prédication, c'est un moyen d'arriver à un but. La prédication, ce n'est pas un but en soi. Si la prédication était un but, laissez-moi vous dire qu'il y a longtemps que tout le monde serait sauvé et que tous les chrétiens iraient bien. La prédication, c'est un moyen de dire « Mais c'est vrai, je reçois en vain. Ça fait 3 ans que je suis dans l'église, je n'ai fait aucun progrès. » Peut-être que... C'est ça l'honnêteté. Depuis le 1er janvier, Tiens, on est le 1er décembre. Est-ce que j'ai fait des progrès depuis le 1er janvier? C'est peut-être pas facile à dire, parce que des fois, justement, on dit, oh non, je ne sais pas. Mais est-ce que j'ai fait des progrès? Est-ce que vous avez fait des progrès depuis le 1er janvier? Est-ce que, pourtant, vous avez entendu au moins combien de prédications? 51? 50? Je ne suis pas prêt, enfin 48. Non? Combien de prédications vous avez entendu depuis le 1er janvier? Allez, répondez-moi. Je veux savoir. Combien de prédications avez-vous entendu le 1er janvier? Il y a 52 semaines, bon, il en manque 4. Je veux dire, car ça fait 48 par 2, si vous écoutez le... Vous rendez compte? Ça fait 100 prédications par an? Peut-être 200? Moi, il me semble que si c'est des prédications qui sont inspirées, ça devrait nous permettre de faire des progrès. Et pourtant, il y a des... Moi, je me souviens de ce chrétien qui m'a dit, ici, dans mon bureau, qui me disait, oh, monsieur Gros, vos prédications, qu'est-ce que ça me fait du bien? Je lui dis, merci, merci, merci. Et puis, je lui dis, mais depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez fait des progrès? Non. Ça fait combien que vous êtes ici? 8 ans. Oh, mais moi, ça m'a brisé le cœur. Vous voyez, la prédication n'est pas un but. La prédication doit nous permettre de dire, ce matin, Seigneur, tu me parles, parce que je ne peux pas donner. Bien sûr, je donne ma dîme, ça permet de faire des choses formidables, mais là aussi, en ce qui concerne la dîme, pourquoi je la donne ou comment je la donne? Pourquoi je donne ma dîme? Est-ce que je donne ma dîme parce que la Bible en parle, parce qu'un pasteur le répète régulièrement, ou est-ce que je donne parce que je comprends que ça sert au salut des âmes? Quand on donne 200 euros pour une tonne de mille, c'est ça à peu près, hein? Est-ce que je comprends que ça va contribuer au salut des âmes? Donner en France 200 euros pour une association qui va s'occuper du salut des petits phoques, je crois que c'est pas ça qu'il faut faire. C'est quand un chrétien, moi je ne suis pas contre les animaux, j'aime les animaux, mais je pense que l'argent doit servir au salut des âmes. Et regardez par exemple la façon de donner. C'est un sujet inépuisable dans la Bible, inépuisable. Parce que les chrétiens se contentent des promesses. Moi je vois que beaucoup de chrétiens se gargarisent de promesses. Certains, je vous l'ai déjà dit, ils ont des boîtes à promesses et le matin, ils ouvrent, claquent la boîte et prennent une promesse. Mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Oh, merci Seigneur. Et ils restent avec ça. Mais moi je trouve que ce n'est pas honnête. Parce que, est-ce que vous connaissez le contexte de « Mon Dieu pourvoira tous vos besoins » ? Eh bien, on va le lire. Philippiens, chapitre 4. C'est ça l'honnêteté. Pourquoi je ne reçois pas ? Je sais que c'est de Jésus que je recevrai du fruit. Ça viendra de lui. Ça viendra dans sa présence. Et je m'adresse aux chrétiens qui n'arrivent pas à faire leur culte personnel. Le diable a gagné. Ne pensez pas que c'est... Vous n'avez pas résisté à Vous n'avez pas résisté au diable, vous avez résisté à Dieu en faisant comme ça. Dans Philippiens au chapitre 4, la promesse qui est écrite dans bien des endroits, Philippiens chapitre 4 verset 19, « Mon Dieu, c'est une belle promesse. » Est-ce que c'est une belle promesse ?« Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Vous le croyez? Est-ce que vous vous rendez compte de la promesse? « Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens de l'église de Philippe? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont intéressés au travail spirituel de l'apôtre Paul. Vraiment, ils se sont intéressés. Et regardez au verset 16. Regardez ce que Paul leur dit. Mais regardez bien, parce que c'est ça la parole. Ce n'est pas des promesses qu'on raconte aux enfants comme ça. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Et quand vous voyez la suite, oui, Dieu ne peut que leur dire, vous vous occupez des besoins de ce serviteur. Moi, je suis convaincu, je ne le dis pas parce qu'il y a M. Bordeneuve, il ne serait pas là, je le dirai pareillement. Moi, je suis convaincu, ou M. Olé, ce que vous faites, pour que ces serviteurs de Dieu soient profusés partout dans les pays francophones, par milliers, aux pasteurs, aux prédications, aux prédicateurs, aux anciens, aux laïcs. Ces milliers de serviteurs de Dieu qu'on envoie, qui est fait par notre frère, et c'est, ou ces tonnes en pagaille qu'on envoie. Mais Dieu pourrait nous dire, oui, vous le faites, on le fait. Et c'est pas... C'est parce qu'on peut dire les choses avec orgueil. Là, ça ne s'appelait pas à Dieu. Mais quand même, on peut le dire. Quand Paul parle d'argent, ce n'est pas matérialiste. Quand Paul parle de l'argent, c'est pour que l'on comprenne bien que ça sert. Et on a à cœur, avec le conseil d'administration, de continuer à aider M. et Mme Bordeneuve. On a à cœur de continuer à aider M. Olé, qui, dans son âge avancé, continue à semer la saine doctrine partout. Est-ce que c'est bien de le faire? Eh bien, moi, je vous le dis. Vous le faites? Eh bien, Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est comme ça. Vous donnez pour M. Olé, enfin pour M. Olé, pour le serviteur de Dieu dont M. Olé s'occupe. Vous donnez pour le Niger, pour le Burkina Faso, pour le Togo, voilà, pour que des gourmandchés et des peuls puissent entendre parler de Jésus. Eh bien, mon Dieu pourvoira tous vos besoins. Ce sont des lois. Et le temps me manque, mais mes frères et sœurs, on ne peut pas ne pas être bouleversé quand on lit les textes qui s'adressent aux chrétiens qui ne subiront pas la famine parce qu'ils donnent. C'est écrit ou c'est pas écrit? Et le temps me manque, je ne peux pas le faire. Mais franchement, ça vaut la peine. Lisez les psaumes et regardez comment Dieu dit que celui qui donne, il sera béni. Celui qui donne le mille, quand je lis ce texte, celui qui vend le blé, il y a la bénédiction sur la tête de celui qui vend le blé, parce qu'on peut le retenir, on peut le retenir pour le vendre plus cher plus tard. Ce qui se passe dans certains endroits d'Afrique d'ailleurs. On le retient, on ne le vend pas, on va le vendre dans 6 mois, parce que dans 6 mois, le prix aura doublé. Mais nous, on ne le vend pas, le blé. On le donne. Alléluia. Il y a des moments, il faut le dire. Moi, je bénis Dieu quand à la place d'aller en Afrique, mon voyage, mais je préfère acheter des tonnes de mille. J'ai bien raison, Madame Ordeneuve. J'ai raison. Je peux faire les deux? Ah bon? Je ne voulais pas que vous répondiez en vérité. Voilà. Bon, je posais une question. Voilà, mais bon, d'accord. C'est pas grave. Mais moi, quand on me donne 1000 euros pour aller en Afrique, moi, je préfère payer 5 tonnes de 1000. Voilà. Après, bon, je ferai moitié chemin, je verrai. Mes frères et sœurs, lisez les promesses. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors, notre personnalité, nos talents, nos capacités humaines nous permettent de faire plein de choses. On peut faire plein de choses. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que l'on règne. Régner sur la terre. Que l'on puisse régner sur le péché. Que l'on puisse régner sur les choses. Régner sur les circonstances. J'ai pris ce verset, ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que laissez-moi vous dire que le mal, ça ne va pas faire un s'arrangeant. Mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, je veux recevoir. Je vous assure, mes frères et sœurs, ça ne se passe que dans sa présence. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Vous entendez, mes frères et sœurs, j'aurais aimé tellement vous partager d'autres textes, mais vous pouvez le faire, prenez votre concordance, allez sur internet, tapez concordance biblique, prenez tous les verbes, donner, recevoir, aspirer, prendre, donner, vous verrez cette bénédiction. Vous vous rappelez ce texte quand Jésus dit à cette église qui se croit riche parce qu'elle a des sous, il dit, mais je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche. Voilà, il y a une richesse qui ne s'obtient que lorsqu'on se retrouve longtemps dans la présence de Dieu. Alors si vous le faites pour le faire, c'est que pour le faire, ça ne servira à rien. Rappelez-vous Ésaïe 58. Mais si vous le faites parce que c'est une grâce de se tenir devant Dieu ou c'est une corvée? Ah, je prie, hein, je prie, monsieur Gou. Hein. Je prie une heure, mais je vous assure que je m'envoie. Hein. Arrêtez de prier. Ne priez pas comme les païens, mais priez pour être dans la présence de Dieu. Et vous recevrez. Que le nom du Seigneur soit béni. On la chante, cette quatrième strophe, hein? Vous voulez la chanter avec moi? Jésus vit et Jésus règne. Je vis et je règne avec lui. Si vous avez besoin d'un cœur pur, demandez au Seigneur un cœur pur. Si vous avez besoin de consolation, demandez-lui la consolation. Il console tous les affligés. Il ne peut pas faire autrement. Si vous vous retrouvez dans sa présence, si vous avez besoin de paix, il vous donnera sa paix. Si vous avez besoin de miséricorde, il vous donnera sa miséricorde. Ce n'est pas possible autrement. Si vous ne recevez pas, c'est que vous ne prenez pas. Mes frères et sœurs, c'est sérieux ces choses. Vous avez envie que de donner? Est-ce que vous avez envie de donner? Je ne parle pas de l'argent, parce que l'argent, je vous assure que ce n'est pas ça. Bien sûr que ici c'est une grâce. Mais mes frères et sœurs, est-ce que vous avez envie de donner des choses spirituelles aux autres? Demain, est-ce que vous avez envie de donner la paix? Il n'y a pas quelqu'un qui dit, moi demain, je vais aller bosser, voilà, ou avec mes voisins, je veux leur procurer la paix. Vous n'avez pas envie? Eh bien, passez du temps devant Dieu. On se lève pour chanter cette dernière sauve. À part les...